Je retournais tous les week-ends et pendant les vacances à Spanish Point, où je reprenais ma vie d'avant avec Nanny. De la même façon qu'on retrouve son lit au terme d'une longue journée. Au même titre que tout ce à quoi j'avais décidé de ne pas penser, je ne prêtais guère attention à son teint gris, à sa silhouette qui se recroquevillait, à sa voix qui se faisait chevrotante. Nanny est morte dans son sommeil en 2010, le jour de l'Assomption. Elle avait 84 ans. Quand je l'ai trouvée ce matin-là, la peau glacée de son avant-bras m'a confirmé que personne ne pouvait plus rien pour elle. Je garde un souvenir flou et fragmentaire des semaines qui ont suivi. Je n'avais pas vraiment pu faire le deuil de mes parents et de ma sœur. Pas de façon active, en tout cas, ce qui m'aurait permis de dompter mon chagrin, d'avancer. Et voilà que je faisais brusquement le deuil de tout le monde à la fois. Je sentais bouger sous mes pieds les plaques tectoniques de ma vie, qui s'écartaient jusqu'à dessiner un gouffre profond et périlleux dans lequel s'enfonçaient soudainement tous mes repères. J'étais l'unique membre de la famille encore en vie, et mes pieds glissaient dangereusement. Mais à ce stade, j'avais si bien appris à simuler que personne ne mesurait mon désarroi. J'ai terminé mes études et obtenu mon diplôme avec mention. J'avais un petit ami, un copain de fac. Même si j'éprouvais les plus grandes difficultés à comprendre comment nous en étions arrivés là, d'autant qu'il ne connaissait quasiment rien de mon histoire personnelle. J'ai le souvenir de rendez-vous interminables chez un notaire au bureau trop éclairé. Leurs fenêtres occultées par des stores poussiéreux, assignés document après document, en me repérant sur les petits marque-pages dont les couleurs vives me semblaient mal en phase avec la tâche qui m'attendait. Prendre possession de biens qui ne m'appartenaient pas, sinon en ma qualité d'unique survivante. Je me suis alors appliquée à tout enfouir, loin, très loin, sous un épais manteau d'insensibilité. J'avais 21 ans. Je me suis retrouvée livrée à moi-même à ma sortie de l'université. Mes études avaient été une longue suite d'apprentissages successifs, chacun d'eux chassant le précédent, à la façon d'une cascade de dominos. J'avais suivi les cours, réalisé les projets qui m'étaient confiés, révisé en prévision des examens. 4 années durant, je m'étais contentée de suivre une route toute tracée, pas après pas, et voilà que j'étais brusquement désœuvrée, incapable de réfléchir à la suite. J'ai perdu les pédales au cours de la période sombre de 6 mois qui a suivi, et la personne que j'étais, ou que je feignais d'être, s'en est trouvée réduite à agir en automate. J'ai perdu mon petit copain, les quelques amis dont je disposais, et une bonne partie de mon poids, dans cet ordre. J'étais devenue une boussole qui avait perdu le nord. Je ne le cherchais pas vraiment, à la vérité. Il était tellement plus confortable de fermer les yeux, de tout lâcher, de couler. En outre, de quel côté doit-on se diriger quand on n'a plus personne? La maison de Nanny à Cork s'était vendue très vite, de sorte que je n'avais pas de soucis d'argent dans l'immédiat. Et tandis que mes condisciples à l'université préparaient une thèse ou décrochaient des boulots passionnants à l'étranger, je me retrouvais dans un studio meublé sinistre près de Mountjoy Square, calfeutré dans mon lit. Je menais une existence si étriquée que mes voisins eux-mêmes ne me connaissaient pas. Je passais des nuits blanches et des journées à garde. Je serais incapable aujourd'hui de dire à quoi j'occupais mon temps. Je sais uniquement que les mois ont passé, sans qu'il ne m'en reste rien, pas même des ébauches de souvenirs. Après de longs mois de ce régime, quand j'en suis arrivée à devoir reconnaître qu'un mal plus profond que mon chagrin altérait mes neurones, j'ai trouvé la force de pousser la porte d'un médecin. Celui-ci m'a envoyée chez une psy, à laquelle j'ai été incapable de révéler la véritable raison de ma visite, qui j'étais vraiment et ce qui m'était arrivé. Semaine après semaine, je lui en disais juste assez pour qu'elle me délivre une ordonnance. Je ne sais même pas si ces cachets avaient un effet quelconque, ce qui ne m'empêchait pas d'être terrifiée à l'idée de leur efficacité. Je n'avais aucune envie de m'apercevoir que le fond du trou était une simple étape, de sorte que je poursuivais ma thérapie et ingurgitais mes comprimés en attendant de ressentir des effets différents, de me sentir différente. Et puis la situation a enfin commencé à évoluer. J'ai peu à peu réussi à dormir la nuit, à me concentrer sur le présent. Je tournais en rond dans mon meublé à longueur de journée, à ceci près que je n'avais rien à faire, personne à voir, nulle part où aller. Alors je me suis mise à marcher. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres, empruntant les sentiers qui longent la baie de Dublin, Je partais généralement aux alentours de 8 heures du matin, mêlée à la masse de tous ceux qui se rendaient à leur travail en ville et dont je finissais par me libérer. Portée par une puissante sensation de liberté, alors que les premiers rayons du soleil dessinaient des traits de lumière sur l'eau, à quelques mètres de moi. Mon périple démarrait au nord de la ville, et je longeais la mer jusqu'à Clontarf. Il m'arrivait même de pousser jusqu'à Océd, après quoi je bifurquais vers le sud, franchissais le fleuve et poursuivais mon chemin en direction de Dun Laoghaire, que j'atteignais après des heures de marche. Il ne me restait plus qu'à m'écrouler sur un siège de bus de la ligne 46A et dormir jusqu'à l'arrivée. Le programme était différent les jours maussades, car je n'avais aucune envie d'affronter la pluie. J'ai commencé à réfléchir à d'autres activités lorsqu'il tombait des cordes, décidé à fuir mon studio tout en restant au chaud et au sec. J'ai jeté mon dévolu sur la plus grande bibliothèque publique de Dublin, en plein centre-ville. Le flot des habitués permettait de préserver mon anonymat. À défaut d'être invisible, je pouvais me mêler à eux en toute discrétion. J'ai pris l'habitude de me réfugier dans un petit coin. Bercé par la pluie qui tambourinait contre les carreaux rendus opaques par la condensation de nos respirations. Je finissais par oublier qui j'étais, prise par la lecture du livre qui me servait de couverture. J'ai ainsi pu m'apercevoir que je retrouvais une certaine capacité d'attention. Très vite, j'en suis arrivée à emprunter des ouvrages que je rapportais chez moi afin de les lire le soir, ou parfois lors de mes randonnées. Et puis j'ai découvert la cuisine, le plaisir de préparer des repas simples et sains à partir de rien. Je prenais soin de mon logement. Je prenais soin de moi. Sans en avoir conscience, je pratiquais sur moi-même la recette appliquée en son temps par Nanny. Mener une existence paisible et routinière qui m'aiderait à guérir. Je ne sais pas précisément à quel moment les dernières écharpes de brume ont fini de s'évaporer, mais c'est un fait. Un jour, j'ai acheté un carnet et une boîte de crayons soigneusement affûtés, consciente que l'étape suivante serait de me lancer. Si vous avez l'impression d'avoir déjà lu ces mots quelque part, ce qui est possible, vous connaissez la suite. Au mois de septembre 2014, je me suis inscrite à un master de création littéraire au St. John's College de Dublin. J'ai choisi St. John's en partie parce qu'il m'acceptait, mais aussi parce que son campus était associé à une série de crimes monstrueux. Quelques années plus tôt, 4 étudiantes de première année avaient été enlevées alors qu'elles remontaient le petit chemin, longeant le Grand Canal, après avoir fait la tournée des pubs et des clubs de la ville. Leurs agresseurs les assommaient, puis ils les abandonnaient dans l'eau pour qu'elles se noient. Si le courant d'air avait eu droit en son temps à la une des journaux, le tueur du canal avait été à l'origine d'une véritable industrie, toujours active 10 ans après les faits, avec des documentaires et des blogs dédiés, ou encore des podcasts, la dernière nouveauté à la mode. L'affaire a connu de nouveaux rebondissements, puisque 3 nouveaux meurtres et une tentative avortée sont intervenus pendant l'écriture de ce livre. En m'inscrivant à St. John's, je portais mon dévolu sur la seule université irlandaise à posséder son propre monstre, plus célèbre encore que le mien. J'y voyais la possibilité de passer inaperçu. Et puis j'avais envie d'écrire. Une envie de toujours. Je ne savais pas quoi, comment ou pour qui. Mais depuis que j'avais réussi à m'échapper de mon trou noir, j'y pensais fréquemment. Encore fallait-il que j'apprenne à écrire avant de me jeter à l'eau. Je m'en sentais capable. Je pensais à un roman noir et tortueux qui me permettrait, anonymement, de laisser s'échapper ma souffrance. Cette voie n'était pas sans péril, mais j'étais désormais plus forte, à nouveau prête à endosser un masque. Après tout, la fiction n'est-elle pas une affaire de masque ? Le responsable du master, un écrivain réputé nommé Jonathan Eglin, dont le premier roman, Les Essentialistes, avait été sélectionné en son temps pour le prix Booker, n'était pas de cet avis. Il nous l'a clairement dit dès le premier cours. De son point de vue, la fiction fonctionnait uniquement si elle était pensée comme un treillis à travers lequel le lecteur pouvait entrevoir la vérité. Tel était notre but, quelle que soit la forme d'écriture retenue. Au cours des semaines et des mois suivants, il s'est appliqué à poncer systématiquement notre carapace, nos masques, nos personnalités soigneusement élaborées, jusqu'à nous retrouver à nu, saignant sur la page.